Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Adiciade, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Nicole Zimmermann. Bonjour,
bonjour
Nicole, qui va nous parler donc d'un de ses livres. On va parler des trois livres qu'elle a écrit, mais notamment celui sur Artemov, le dernier centaure, aux éditions Priva. On en parle dans un instant, mais tout d'abord, une seule petite info pour aujourd'hui. Oui, je n'en ai pas beaucoup, c'est un jour creux, sans info. Donc c'est pour demain, vendredi 21 mai, de 10h30 à 19h, ça se passe à la salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, dans le centre-ville, à côté du Capitole. Alors c'est avec en partenariat avec la librairie La Renaissance et la mairie de Toulouse, un colloque sur Jaurès, Jean Jaurès bien sûr, la question nationale et la République, avec divers écrivains dont je vais en citer un au moins, il y en a plusieurs, Rémi Pêche qui a écrit Jaurès Occitan, également d'ailleurs aux éditions Priva, justement on va en parler.
Page à page, Claire Ambil.
Alors, je me tourne vers mon invité après cette courte info. Donc, Nicole Zimmermann, donc vous êtes, on va dire, toulousaine hein, depuis fort longtemps.
Oui. Moi, je me revendique comme toulousaine.
Voilà. Née à Paris, mais toulousaine hein, depuis longtemps. Et,
nationalisée toulousaine. Voilà.
Et une origine russe
très lointaine.
Mais tout de même.
Polonaise du côté de maman et russe du côté de papa.
Voilà, donc quand même de l'Est, hein, ouais. Donc voilà, avec Artemov, hein, peut-être que vous allez nous en dire plus dans un instant. Alors, vous avez fait des études de sciences politiques et de philosophie.
Oui, ce qui est assez contradictoire.
Oui, effectivement, mais bah, c'est bien, ça ouvre une palette large de vision du monde.
Tout à fait, assez éclectique.
Tout à fait. Bah, d'ailleurs, on va le voir dans vos livres. Hein.
Dans mon parcours aussi.
Tout à fait. Vous avez fait de la radio aussi, donc vous êtes à l'aise là, devant un micro.
Non, tout à fait. Je retrouve mes premières amours, parce que j'ai toujours énormément aimé la radio. Mais après, j'ai subi le charme de l'image, donc je suis passée à la télévision. Mais j'ai
vous avez gardé
à faire de la presse écrite, de la radio, voilà.
Alors actuellement, donc, vous êtes journaliste à Toulouse.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, on parlait de votre bibliographie. Donc, le premier livre que vous avez écrit, c'est Quai des Oranges. Hein, c'était en 2005, voilà, aux éditions Priva. Et c'était un roman historique.
Oui, mais je crois que de mes grandes passions, c'est quand même mon métier, c'est le journalisme. Donc, en faisant un reportage, je suis tombée sur cette histoire. Enfin, j'étais plutôt en vacances, mais quand on est journaliste, je crois qu'on l'est toute sa vie et tout le temps, à tout moment.
Même donc, en vacances, on est quand même...
Je suis passée à Cerbère et j'ai vu une statue avec... au départ, j'ai cru que c'était un maillol parce que c'était superbe, on aurait dit du marbre. Et en m'approchant, j'ai vu que c'était en fait de la résine qui avait été recouverte d'une patine qui faisait faux marbre. Et dans sa caisse, elle tenait une caisse devant elle, cette femme un peu soviétique, justement, avec une poitrine un peu confortable, un grand fichu. Et elle avait une caisse d'orange qu'elle tenait à bout de bras, comme ça. Et les oranges étaient ces oranges en plastique avec
D'accord.
lesquelles on joue, enfin avec lesquelles j'ai joué moi quand j'étais
à la dinette
ou à la marchande. Et elles avaient été recouvertes de la même pellicule de marbre, enfin de faux marbre ou de faux bronze plutôt. Et là, les gens avaient malicieusement gratté la pellicule, donc les oranges apparaissaient dans le plastique le plus orange qu'on puisse imaginer. Donc cette statue, et y avait écrit au pied, à nos transbordeuses, la ville de Cerbère reconnaissante. Alors, comme je trouvais ça, entre le plastique, la marchande, les oranges, et là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'en ai le cœur net. Et que
vous avez cherché.
Alors, j'ai commencé en me disant, ça fera peut-être un reportage un jour, je pourrais en faire. Bon, et puis, petit à petit, cette histoire, je l'ai retrouvée, j'étais à la mairie, j'ai remonté des pistes, je me suis passionnée pour ces femmes qui étaient effectivement les transbordeuses de Cerbère. Alors, les transbordeuses de Cerbère, c'était les femmes qui, tout le trafic d'oranges passait par train, par Cerbère, les oranges arrivaient d'Espagne. Alors avant, ça c'était, elles sont toujours venues d'Espagne, mais elles arrivaient par bateau. Mais le bateau, ça vaut rien aux oranges parce qu'il y a de l'eau, c'est humide et c'est long le voyage.
Et oui.
Donc à partir du moment où on a creusé le tunnel des balistres entre la France et l'Espagne, les oranges ont pu arriver par train. Seulement, elles arrivaient en vrac dans les wagons et il fallait vider les wagons espagnols pour remplir des wagons français, parce que les trains espagnols n'ont pas le même écartement que les
trains français. Tout à fait, au niveau des rails, oui,
tout le monde
se
souvient probablement, enfin les gens un peu de ma génération, que quand on allait en Espagne, on sortait du train à Cerbère et on allait sur l'autre train avec sa carte d'identité ou son passeport à la main pour monter dans le train espagnol, pour continuer sa route vers l'Espagne, ou l'inverse quand on revenait. Et là, c'était les oranges faisaient pareil. Elles n'avaient pas besoin de carte d'identité, mais elles avaient, il fallait les vider du wagon espagnol pour remplir les wagons français. Et comme les fruits, c'est fragile, on a pensé que ce seraient les femmes qui étaient la main-d'œuvre la plus adéquate.
Parce que les femmes sont plus délicates que les hommes.
C'est la raison pour laquelle c'était uniquement, exclusivement une main-d'œuvre féminine.
D'accord.
Et donc, les transbordeuses de Cerbère ont vidé les wagons espagnols et rempli les wagons français d'oranges pendant près d'un siècle.
Ah oui.
Mais simplement, elles le faisaient à bout de bras. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le trafic d'oranges a pris une expansion extraordinaire parce que c'était le seul fruit qu'on avait en hiver à l'époque.
Et oui, tout à fait.
Ça a commencé vers les années 1870-1880. Ça s'est arrêté en gros dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'après, le trafic a continué par route, par camion.
Oui, après, c'était...
Mais elles ont transbordé, chaque femme transbordait à peu près jusqu'à 18 tonnes d'oranges par jour. Alors, c'était à coup de panier, enfin de gros paniers. Mais voilà, bon, et donc et ce sont elles qui ont fait la première grève de femmes de notre histoire sociale. Transbordeuse de Cerbère, enfin c'est ce que
c'est en faisant vos recherches que vous avez donc découvert.
Ça. Donc je me suis dit c'est trop beau pour faire un reportage. Ouais. Comme je me suis toujours dit un jour j'écrirai. Je me suis dit si avec un sujet pareil t'es pas capable d'écrire, faut arrêter de rêver. Et ben j'ai réussi à faire un roman.
Donc c'est Quai des Oranges
qui a été publié chez Priva il y a quelques années maintenant.
2005. Alors le second, on va en parler un peu plus longuement aujourd'hui, c'est Artemov, le dernier centaure, un superbe livre que vous avez donc coécrit avec Jean-Louis Auger. Alors vous avez fait la partie biographie de Georges Artemov, et puis lui a fait la partie histoire de l'art, hein, puisqu'il est professeur d'histoire de l'art. Hein.
Il est
conservateur de musée de Castres.
Chef de Goya, voilà, à Castres.
Voilà. Et donc, ce livre donc magnifique, avec des reproductions de tableaux, de sculptures sur bois, de dessins, donc de Georges Artemov, ce cosaque
exilé
pas loin de chez nous, à Revel. Donc, on va en parler dans quelques instants. Et là, vous venez donc fort différent, Quai des Oranges, les transbordeuses d'oranges. Et puis là, Artemov, donc plutôt
le dernier
centaure, donc plutôt la biographie de ce peintre sculpteur d'origine russe. Et puis là, le troisième livre qui vient de sortir, hein, il est tout frais, hein, du 23 avril, je crois, aux éditions Pascal Gallaudet, c'est Menaces sur la santé au travail, un essai, hein, on va dire, que vous avez écrit avec deux médecins du travail.
Deux médecins inspecteurs régionaux du travail. Alors ça aussi, c'est le même métier, je suis journaliste, moi je rencontre des histoires des gens.
Sur des sujets actuels.
Sur des sujets actuels. Et là, j'étais assez sensibilisée sur, effectivement, ce qu'on appelle les problèmes au travail. Comme tout le monde, quand on voit des gens qui se suicident parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils sont malheureux au travail.
Oui, c'est grave. C'est grave, c'est très grave.
On se dit qu'on est revenu au 19e siècle où les mineurs mouraient de tuberculose. Et là, c'était en fait la même histoire. C'est la même histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de tout temps, les gens sont morts pour leur travail. On pensait que le progrès...
Effectivement, pouvait éviter ça.
Et nous, la question qu'on s'est posée en discutant avec ces médecins, j'ai posé des questions et qui ont... C'est leur histoire, c'est leur vécu, c'est leur quotidien.
C'est ce qu'ils voient tous les jours, les patients qui viennent les voir.
L'axe de ce bouquin, c'est de se dire, quand on a créé la médecine du travail en 1946, enfin, elle existait un tout petit peu avant, mais elle a été... vraiment institutionnalisé en France en 1946.
C'est pas si
vieux
que ça,
avec les grandes réformes après la guerre, la sécurité sociale, les allocations familiales, on était en pleine...
On n'a pas l'impression
qu'on a créé la médecine du travail et elle avait prouvé son efficacité puisqu'elle avait permis de repérer la tuberculose pour les mineurs, par exemple, ou pour les travailleurs des mines. Bon. Et on a réussi à éradiquer la tuberculose en grande partie grâce à la médecine du travail, ou en tout cas en bonne partie grâce à la médecine du travail. Donc, nous, la question qu'on se pose dans ce livre, c'est pourquoi cet outil extraordinaire qu'était la médecine du travail est impuissante aujourd'hui à conjurer les suicides de gens qui sont stressés et qui sont mal.
Est-ce que ça s'adresse plus au côté psychologique, peut-être?
Non. ou alors, bon, il faut aussi savoir que les menaces physiques existent toujours. On attend à l'horizon 2020, il y aura encore 100 000 morts en France résultant de cancers de l'amiante. De gens qui ont été en contact avec l'amiante.
Oui.
Et on sait depuis 1906 que l'amiante est dangereuse.
Oui.
Donc, pourquoi la médecine du travail n'a pas été capable d'éradiquer, enfin, de prévenir plus tôt les cancers de l'amiante ? Et se développe aujourd'hui, on vient d'avoir l'histoire de ce monsieur qui avait un cancer de la face dû au bitume sur les autoroutes. Oui. On est toujours dans le même cas, le travail peut tuer. Donc, moi, c'est la question qu'on pose dans ce bouquin, Menaces sur la santé au travail, c'est. Pourquoi la médecine du travail ne peut plus jouer ce rôle d'écran de protection du travailleur pour lequel elle a été créée.
Tout à fait, qui est son
la réponse,
son rôle propre.
Fondamentalement, elle est dans l'erreur qui a été faite en 1946, c'était de penser qu'après la guerre, tout le monde marcherait main dans la main, entreprise et ouvriers, et on a continué à confier aux employeurs la médecine du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours le patronat qui finance la médecine du travail.
Oui, c'est vrai.
Ce qui paralyse complètement le système.
Et quelque part, c'est ce qui n'est pas très logique, parce que bon,
les médecins restent indépendants, mais en attendant, ils sont employés par des associations loi 1901 qui sont financées exclusivement par le patronat. Ouais. Donc, avec tout ce que ça peut comporter, et personne, aucun patron, même s'il a les meilleures intentions du monde, n'accepte vraiment de gaieté de cœur qu'un médecin du travail vienne lui dire « Ah ben non, on ne peut pas organiser le travail de cette façon parce que c'est mauvais pour la santé des travailleurs. »
Et depuis sa sortie, bon, c'est récent, ça fait même pas un mois, 23 avril, vous avez déjà eu des répercussions parce que c'est quand même un sujet assez brûlant, quoi, j'imagine.
On a écrit ce bouquin. D'abord parce qu'on pensait qu'effectivement c'était urgent de le dire, et il y a une autre urgence qui est que une réforme de la médecine du travail doit intervenir avant 2011, donc on ne sait pas exactement quand,
c'est bientôt.
Donc on s'est dit c'est vraiment maintenant qu'il faut arriver à dire arrêter. Bon, voilà. Juste un dernier truc, c'est qu'en 81, quand la gauche est arrivée au pouvoir en France, les associations de santé qui gèrent les médecins du travail en France ont toutes pensé, pour elles c'était évident, que une des premières choses qu'allait faire la gauche, c'était de nationaliser la médecine du travail. Tellement eux étaient conscients que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Bon, la gauche ne l'a pas fait à l'époque, c'est sûrement pas maintenant que ça va se passer, mais on propose une autre solution qui serait d'Égypte, qui permettrait à l'État de rentrer dans le système et de gérer un peu la santé des travailleurs.
Ben oui, c'est ça qui est important et essentiel. Donc voilà, un livre que je recommande également, Une menace sur la santé au travail.
Et c'est paru chez Pascal Gallaudet.
Tout à fait, édition Pascal Gallaudet, et donc écrit Nicole Zimmermann et puis deux médecins du travail.
On aura l'occasion de le présenter à la librairie Ombre Blanche le 14 juin.
Je le réannoncerai donc dans ma page info temps et en heure. Donc 14, donc on pourra venir vous voir. Vous serez avec les deux médecins également.
Avec les deux médecins.
Voilà, les auteurs réunis.
Tout à fait. On sera également un peu avant à la fête de l'humanité le week-end prochain.
Ah, c'est le week-end prochain.
L'autre week-end.
Alors maintenant, on va passer à Artemov, le dernier centaure, donc aux éditions Priva, qui a été édité fin 2009, novembre 2009.
Alors ça aussi, c'est une histoire de journaliste. C'est un des premiers reportages que j'avais pu faire en télévision avec de l'image. Et j'avais interviewé, c'était un hommage à Simone Boudet. Boudet était la galeriste de Toulouse qui s'est battue toute sa vie pour l'art contemporain. Elle a ouvert au départ une librairie qui s'appelait La Joie de Lire, elle avait une des expositions et elle montrait des tableaux. Bon. Et après, c'est devenu une galerie que moi, j'ai fréquentée parce que j'adore toujours la peinture. Donc, j'allais voir les expositions, les vernissages de Simone Boudet. On y voyait des choses magnifiques, des peintures absolument extraordinaire, et j'ai proposé de faire le portrait de Simone Boudet, qui était une galeriste un peu discrète, que personne ne connaissait vraiment, donc j'ai fait un portrait, et je lui ai dit, mais Simone, il faudra qu'on aille chez vous, parce qu'on connaît votre galerie, mais moi je voudrais voir votre collection de peintures, ce que vous avez accumulé, et effectivement, je suis arrivée dans une petite maison toulousaine, dans laquelle il y avait des peintures, pour moi c'était presque un musée, des Hartung, voir des Kikoïnes, voir des Bissières, voir des Loutres, c'était des tableaux absolument somptueux. Et Simone Boudet m'a montré, alors à un moment je lui pose la question idiote, mais qu'il fallait quand même lui poser, j'ai dit bon, et là-dedans, est-ce qu'il y a un coup de cœur particulier pour vous? Quel est le plus grand? Enfin, quel est le tableau deux tableaux. Je vous dis franchement, moi, je ne les avais pas vus. C'est, pourtant, ils étaient immenses. Mais enfin, c'était pas ceux-là que j'avais...
Qui vous avez tapé dans l'œil, quoi, on veut dire.
Elle me montre ces deux arlequins et elle me dit, voilà, pour moi, le plus grand, c'est celui-là, c'est Georges Artemov.
Ah bah oui, les arlequins, bah oui, on va le voir.
Donc, je regarde ces tableaux et puis c'est vrai qu'à côté des autres, moi, je me suis dit, bon, là, elle exagère. Et puis, tout au long de l'entretien, elle me reparlait d'Artemov en me parlant de lui, me racontant des anecdotes, me disant, bon... Et je me disais, mais pourquoi elle a dû avoir une histoire avec ce père?
Une liaison, oui.
Non, mais j'ai vraiment pensé à ça. Pardon si vous nous entendez quelque part. J'ai pensé à ça. Et puis, il y a eu, un ou deux mois après, une petite rétrospective, pardon, des peintures de Georges Artemov à Castres. Donc, j'y suis allée. C'était les laboratoires Fabre qui organisaient une expo. Georges Artemov. Donc, bon, je me suis dit, ben là, je vais en avoir le cœur net. C'est un peintre d'origine russe, mais qui a vécu à Revel.
Oui, Paris d'abord.
Une bonne trentaine d'années, ans. Donc, il était de la région. C'est une institution de la région qui lui rend hommage. Je vais aller voir. Donc, j'ai commencé j'ai regardé ses peintures. Et alors là, je suis tombée, mais alors vraiment... en amour avec ces peintures.
Elles sont magnifiques, très colorées, très colorées.
Voilà. Et donc, on m'a raconté, on m'a raconté des anecdotes sur la vie de ce peintre. On a commencé à m'en parler en me disant qu'il était russe, qu'il était exilé. Enfin, on m'a raconté une vie qui était vraiment celle des grands peintres
de l'époque. Parce qu'il est né en 1892.
Totalement. Il a traversé le siècle. Il a connu les plus grands peintres.
Il a connu les deux guerres aussi.
Mais il a connu surtout l'école de Paris. Il était dans cette mouvance. Paris était la capitale internationale de l'art à l'époque.
Oui, tout à fait.
Les peintres du monde entier venaient là. Il était là. Il était l'ami Picasso, de Modigliani. Il a connu vraiment il a croisé le chemin de tous ces gens-là et il faisait partie de ces grands peintres. C'était un des grands peintres de l'école de Paris, il faut le savoir, Georges Artemov. J'ai fait un papier sur ce peintre qui était dithyrambique. Et là, j'ai reçu 2-3 jours après un coup de téléphone. Alors, je me souviens, on m'avait dit, il était russe, donc il apprenait à tirer à sa fille, à cueillir les roses à la carabine.
Oui, ça, je l'ai noté cette anecdote, j'ai beaucoup aimé. Et il taillait ses rosiers au sabre.
Voilà, et qu'il était très, qu'il adorait la vodka.
Comme beaucoup de Russes.
Qu'il était très... Bon, qu'il aimait bien boire de la vodka de temps en temps. Donc, dans mon papier, je disais qu'il aimait la vodka et c'est un euphémisme. Bon. Et je parlais de ce peintre pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Et quelques jours après, je reçois un coup de fil. Et là, j'entends une voix très, très blanche qui me dit, bonjour, je suis Marie Artemov, je suis la fille du peintre. Je dis, écoutez, je suis tellement contente de vous avoir au téléphone. Est-ce qu'il y a un atelier? Est-ce qu'il y a encore des peintures de votre père? Est-ce qu'on peut en voir plus? Est-ce qu'on peut faire... Moi, j'ai été tellement... Et elle restait mais complètement impassible. Et à la fin, au bout de quelques secondes, elle me dit, est-ce que c'est bien vous qui avez dit que mon père était un alcoolique? Je me suis dit, Marie, on ne peut pas... On peut pas dire. Enfin, je me suis dit, on peut l'entendre comme ça, puisque j'ai dit, écoutez, on peut pas en rester là. Il faut qu'on se voit, qu'on s'explique. Alors, voilà, on a eu une explication qui était un peu difficile. Et puis à un moment, je lui dis, écoutez Marie, moi je suis désolée, mais je suis d'origine russe moi aussi. Alors de la vodka, j'en ai mis dans mon biberon. Donc quand je dis quelqu'un qu'une critique. Alors là, elle a eu ce sourire qui l'illumine et qui lui dit, elle me dit, vous êtes d'origine russe. Voilà, et depuis ça, c'est il y a une vingtaine d'années. Et depuis 25 ans maintenant, vous êtes amis. Depuis 25 ans, je lui dis, Marie, il faut écrire la vie de ton père. Il faut que tu racontes la vie de ton père. Il faut écrire un livre avec une biographie de ce peintre, parce que c'est le peintre est quelqu'un d'extraordinaire, mais la vie qu'il a eue est faramineuse.
En tant qu'homme, peintre, sculpteur, parce qu'il était sculpteur.
Et la façon dont il a été mêlé à tous les grands événements de notre histoire contemporaine.
Il
était russe, il est venu à Paris, il a connu les années folles. Il faisait partie de la bohème, il a eu une bourse de l'État russe à l'époque étudier la peinture à Paris. Donc il avait un talent de dessinateur qu'il avait fait remarquer de tout le monde. Il a donc vécu à Paris vraiment les quelques années de bohème juste avant la guerre de 14. Il s'engage, comme il est en France, volontaire pour défendre le pays qui l'a accueilli, c'est-à-dire la France.
La France. Il est blessé, hein, il risque même d'être amputé d'une jambe.
Tout à fait, il se soigne. Bon, et à ce moment-là, je le fais plus rapidement,
mais oui,
sur
oui,
le livre le développe un
oui,
peu.
Oui. Puis malheureusement, le temps nous rattrape toujours.
En 17, il est obligé de repartir. Il est obligé, il y a la révolution russe,
donc
il
y a été,
forcément.
Il a été très déçu, d'ailleurs.
Déçu, il revient. Donc,
il passa par Constantinople, il allait passer, entre
voilà,
guillemets,
il rencontre sa première
épouse, Lydia,
Lydia.
Il y a beaucoup de tableaux dans le livre, d'ailleurs, de Lydia qui sont magnifiques.
Voilà.
Et après, ils vont vivre à Paris, tous les deux, et ils vont même faire un décor pour
le caveau caucasien dont parle Kessel, qui était le premier cabaret russe de Paris, et donc où tous les Russes, où toutes les élites intellectuelles, musicales et picturales se retrouvaient tous les soirs. Et donc, le décor était de Georges Artemov. Alors, juste une petite phrase.
Oui, oui.
Moi, je dis, et Marie a très sagement attendu qu'il y ait une grande exposition qui vienne de se terminer au musée Goya.
À Castres.
À Castres, qui était donc un musée national, qui a rendu à Georges Artemov l'hommage qu'on devait à ce peintre.
Tout à fait, c'était mérité.
Voilà.
Oui, oui, tout à fait.
Et la raison, et donc on a été, c'est Jean-Louis Auger, le conservateur du musée Goya, qui a fait la deuxième partie de ce livre.
Sur l'histoire de l'art, de l'œuvre d'Artemov.
Et qui a expliqué en quoi Georges Artemov est vraiment un grand peintre. Et il a expliqué les raisons d'historien de l'art et de connaisseur de la peinture.
Au niveau de ses techniques, le grattage notamment, les choses...
Qui explique que sa place est vraiment dans les grands peintres. Et il explique aussi, la raison pour laquelle on se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas été aussi connu ou est-ce que
c'est souvent
après
leur mort,
elle est dans
le caractère
de Georges Artemov. Lui n'aimait pas les marchands.
Oui.
Lui refusait.
Sa peinture, c'était pas du commerce.
Il avait une haute idée de sa peinture et il pensait, il était d'une exigence extraordinaire par rapport à son travail, par rapport à lui-même. C'était un travailleur acharné, il dessinait. Enfin, pour une œuvre, il était capable de faire une cinquantaine ou une soixantaine de dessins, Il détruisait des œuvres, il les brûlait, il les déchirait.
Sa philosophie, c'était de recommencer, de faire une toile unique et nouvelle à chaque fois, comme c'était la première.
Voilà, et donc il ne supportait pas l'idée qu'un galeriste ou qu'un marchand puisse lui dire... il faut plutôt, là je voudrais des bouquets de fleurs parce que c'est ça qui se vend, ou fais-moi plutôt des paysages parce que ça, j'ai du mal à vendre autre chose. Bon, donc ça pour lui c'était complètement incompatible avec la notion qu'il avait de l'art. Il a refusé les marchands, ce qui n'a pas empêché qu'il trouve des gens comme Simone Boudet avec lesquels il s'est bien entendu. Et lui pensait qu'à partir du moment où il y avait des galeries qui exposaient son travail et qu'il vendait, ça suffisait.
À être connu et reconnu. Et voilà.
On s'aperçoit que Kahnweiler, le marchand de Picasso, a dit « Le XXe siècle sera le siècle des marchands ». Et il avait raison. Il n'y aura pas de grands peintres, disait-il, sans grands marchands. Et effectivement, tous les peintres qui sont sortis de l'anonymat et dont on connaît les noms étaient associés à des grands marchands. Georges Artemov ne s'est pas associé à un grand marchand, donc il est resté. Il a vécu de sa peinture toute sa vie.
Oui,
donc
tout à fait.
C'était pas un échec, si vous voulez. Mais à la fin de sa vie, il a confié à Michel Rocbert, un des grands journalistes toulousains qui travaillait à la Dépêche.
Oui, qui a fait des articles d'ailleurs sur lui dans la Dépêche du midi.
Il lui a dit j'aurais dû avoir. Enfin, je regrette de ne pas avoir eu de grand marchand.
Et oui.
Voilà, il a compris qu'il aurait dû faire peut-être confiance à un marchand pour ce... Mais il avait quand même cette extraordinaire clairvoyance de dire à un de ses modèles à un moment moi je ne le verrai pas, mais vous verrez que je serai reconnu. Il savait que sa peinture avait cette qualité, cette force en elle qui fait que des années après, et puis grâce au patient et tenace travail de Marie, sa fille, de Marie Artemov Testa, elle a réussi à faire sortir la peinture de son père, de son anonymat, et petit à petit, c'est une peinture qui revit, que des musées exposent et qui commence à découvrir...
Moi, j'ai vraiment découvert ce peintre avec votre livre, Nicole, et on peut dire aussi qu'il a été soutenu par sa seconde femme aussi, Jeanne Astre.
qui était la petite fille des Peppermint Jet, qui était
la boisson alcoolisée à la menthe,
voilà, qui était à Revel. Donc ce qui explique qu'après la guerre, quand sa première femme est morte, Jeanne était une amie du couple. Elle-même est devenue veuve en même temps. Ils se sont
finalement retrouvés.
Ils ont eu une fille, Marie. Et ils ont vécu. Et c'est à partir de là que Georges Artemov a vécu à Revel, où il a retrouvé cette espèce de
la grande montagne noire, un lieu un peu sauvage.
Hein, c'est un cosaque. Il a été élevé par les cosaques. Ouais. Il a vécu à cheval et en liberté dans les grandes plaines du Don. Quand il était enfant, et ça lui a manqué toute sa vie.
Et donc la montagne noire lui a permis de retrouver un peu ça.
La montagne noire avait cette espèce de grande sauvagerie, un peu d'âpreté qu'il y avait dans le Don, des grandes étendues, des grandes plaines. On pouvait chasser, on pouvait pêcher. Mm-hmm. Et il y avait la mer.
Les grandes balades, il y avait la mer pas loin. Et donc c'est là, en fait, donc il est enterré pour nos auditeurs. Hein, si vous avez envie d'aller faire un petit tour du côté de Vaudreuil, il est enterré à Vaudreuil avec sa première épouse, avec Lydia.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est lui qui a sculpté la croix de la tombe de Lydia, qui est donc morte avant lui, prématurément.
Voilà. J'espère qu'on pourra bientôt donner d'autres rendez-vous pour d'autres expositions.
Parce que celle
du musée Goya vient de se terminer.
Mais j'espère. Et donc Priva, ça s'est passé. Donc après, donc Marie, vous êtes donc vue avec Marie, et donc vous avez, elle vous a amené donc les témoignages enregistrés d'amis et de proches de son papa, de Georges Artemov.
Voilà,
et puis
c'est comme ça que nous avons pu nourrir cette biographie qui est en première partie du livre avec des reproductions
de tableaux. Moi, j'ai beaucoup aimé la maternité.
Parce que ce livre a servi de catalogue à l'exposition rétrospective du musée Goya.
C'est un très très beau livre. Donc, première partie, la biographie écrite par Nicole Zimmermann. Deuxième partie, l'histoire donc, de l'œuvre au niveau de l'art
qui replace l'œuvre de Georges Artemov dans l'histoire de l'art. Et Jean-Louis Auger a fait un travail considérable qui redonne vraiment sa place et qui explique comment Georges Artemov s'inscrit vraiment dans une tradition picturale et à un très haut niveau.
Et donc, des très beaux tableaux, aussi des reproductions, des dessins, des sculptures. Il sculptait
c'était
sur le bois exotique au départ.
C'était des bois très durs et il a fait des œuvres absolument
magnifiques. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que comme c'était la pénurie, il est revenu à la peinture finalement, et ce jusqu'à la fin de sa vie.
Voilà, et puis l'insistance de sa femme, de Jeanne, sa deuxième femme, qui trouvait que le travail, quand il sortait d'un tableau sculpté, il était épuisé parce que c'est un travail de titan, de se coltiner comme ça le bois... dur. Et donc, elle préférait qu'il peigne. C'était plus...
Un très beau livre, Nicole Zimmermann, Artemov, le dernier centaure aux éditions Priva. On pourra en parler pendant des heures de Georges Artemov. La semaine prochaine, je recevrai Michel Baglin pour la balade de l'escargot, aux éditions Pascal Gallaudet. Là aussi, on retrouve un éditeur connu. Et donc, on espère vous voir avec un nouveau livre, donc dans un style peut-être différent, Nicole.
Oui, j'en ai en préparation.
Bon, alors, vous nous tenez au courant et vous reviendrez.
J'espère.
Merci beaucoup
à
vous, Nicole. Et Adiciade, c'est bonne semaine à tous.